J'ai une question très sérieuse à vous poser aujourd'hui. Supposons qu'un homme est marié à au moins deux femmes en même temps. Croyez-vous que ça puisse avoir des répercussions désastreuses dans la vie de ses enfants? On va voir ce que la Bible en dit aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Est-ce que tu te poses les mêmes questions que moi quand tu vois toute la corruption dans ce monde? Par exemple, est-ce que ça fait longtemps que la polygamie existe? Est-ce que Dieu approuve un homme qui est marié à plusieurs femmes? Est-ce qu'un tel comportement peut avoir des conséquences dans la vie des autres, de leurs enfants par exemple? Maintenant aussi, concernant le viol, est-ce qu'on devrait venger une proche parente ou une amie si elle se faisait violer? Dans ce monde où je suis entourée de polygames, de violeurs, de meurtriers, est-ce que c'est possible que je vive en paix, que j'aie une vie harmonieuse? Aussi, est-ce qu'il se pourrait que je fasse moi-même quelque chose de mal sans le réaliser? Notre enseignant Régent va nous aider à trouver les réponses que donne la Bible. Mais prions premièrement. Oh mon Dieu, on est dans un sujet très, très, très sérieux et on a besoin de ta sagesse, on a besoin de savoir ce que tu penses de ces choses-là, ce que tu penses de la polygamie, quelle est ta pensée sur le viol, ta pensée sur le meurtre, comment tu veux qu'on réagisse devant ces choses. Alors enseigne-nous par ta parole ce que tu veux qu'on sache. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Abordons maintenant le 34e chapitre du livre de la Genèse. Le thème: Dina, déshonorée par Sichem, Siméon et Lévi massacrent les hommes de Hamor. En fait, Jacob commit une erreur en s'arrêtant à Shalem, car un scandale se produisit dans la famille de cet homme. Dina, la fille que Jacob eut de Léa, fut déshonorée par Sichem, fils de Hamor, le Hévien. Alors Siméon et Lévi, les frères de Dina, vengèrent ce geste en tuant tous les habitants de la ville d'Hamor. Ceci ne peut être justifié. Et c'est une page sombre dans l'histoire de cette famille, de la famille de Jacob. Cet incident révèle que Jacob n'a pas quitté trop tôt son oncle Laban dans le pays de Charan. Nous devons nous rendre compte que Dieu a bien fait de l'éloigner de cet environnement. Dieu se soucie énormément de deux choses dans le livre de la Genèse. Premièrement, l'hérédité. Dieu désire qu'un croyant épouse un croyant et non un incroyant. Ceci est important par rapport à l'hérédité. Deuxième chose, c'est l'environnement de l'individu. Nous remarquons cela spécialement dans l'histoire de Jacob. Il a une grande famille. Non seulement eut-il 12 fils, mais il eut aussi des filles. Seule Dina est mentionnée parce qu'elle joue un rôle dans ce triste chapitre. Il y a un autre détail dont nous devons prendre note pour bien comprendre la Genèse. C'est le fait qu'il y ait des problèmes chez les familles. L'avez-vous remarqué? Il y avait des disputes et des problèmes dans la famille d'Abraham. Ce fut la même chose dans la famille d'Isaac. Isaac préférait Ésaü alors que Rebecca préférait Jacob, et cela provoqua des frictions. Maintenant, nous allons voir que de nombreuses choses n'allaient pas bien dans la famille de Jacob. Jacob s'arrête et séjourne à Shalem, et cela lui attira un immense chagrin. En fait, le chapitre 34 est un chapitre triste et sordide, et l'incident a dû briser le cœur de Jacob à l'époque. Jacob, ou Israël, comme nous devrions l'appeler, a construit un autel. Il rend témoignage du vrai Dieu vivant. Il y a un changement dans sa vie, mais sa croissance spirituelle est lente. Ceci devrait nous servir de leçon. En tant que chrétien, ne vous attendez pas à croître spirituellement du jour au lendemain. Dieu nous adopte comme enfants dans sa famille et nous sommes capables de comprendre les vérités spirituelles parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Cependant, notre croissance et notre progrès se font très lentement. Nous apprenons des vérités bibliques, mais nous remarquons que dans notre quotidien, nous sommes comme Simon-Pierre. Il nous arrive de trébucher. Nous louons Dieu que Simon-Pierre se relevait, secouant la poussière de ses vêtements, pour en arriver à finalement marcher fidèlement avec son Dieu. En fait, il a marché jusqu'à la croix, comme notre Seigneur l'a fait. Vous et moi devons reconnaître que nous croissons lentement, et que c'est la même chose pour les autres. Il arrive parfois que les parents d'enfants et croyants attendent trop d'eux. N'attendons pas trop des autres, mais attendons beaucoup de nous-mêmes. Il y a trois chapitres dans le livre de Genèse qui sont tristes. Ils traitent tous des enfants de Léa, la fille aînée de Laban, qui fut donnée à Jacob. Ceci prouve que Dieu n'approuve pas la polygamie. Le fait qu'elle fût imposée à Jacob jusqu'à un certain point ne la rend pas admissible d'aucune façon. Jacob a finalement accepté la situation. Nous voyons dans cette section que les enfants de Léa furent tous impliqués dans des péchés graves. Elle eut quatre garçons. Dans ce chapitre, on parle de Siméon et de Lévi. Dans le chapitre 35, on parle d'un autre fils, Ruben, le premier-né. Et dans le chapitre 38, c'est le tour de Judas. Tous les fils de Léa ont agi immoralement et péché gravement. Nous avons déjà fait remarquer qu'il y eut des disputes dans toutes ces familles, mais maintenant, nous découvrons un élément nouveau. Il y a une sordidité et mesquinerie dans la famille de Jacob que l'on ne retrouvait pas dans la famille d'Abraham ou d'Isaac. Les problèmes et les difficultés de la famille de Jacob surclassaient de loin ceux des autres familles. Dieu voulait sortir Jacob et sa famille de la maison de Laban, loin du milieu, parce que c'est dans ce milieu que se sont développées les attitudes pécheresses des fils de Jacob. Dina est déshonorée par Sichem. Jacob s'est arrêté à Shalem. Il s'est acheté une propriété dans la banlieue de la ville et il essaie de s'adapter à la culture du temps. Cependant, ce n'était pas un bon endroit et Dieu veut l'en éloigner. Et croyez-moi, lorsque vous aurez lu l'histoire, vous en arriverez à la conclusion que Dieu a raison. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. C'est ce que nous lisons dans Genèse 34, verset 1er. Dina alla visiter la ville de Shalem, et elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays, et l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Genèse 34, verset 2. Laissez-moi exprimer cela avec les mêmes termes qu'utilisent les médias de nos jours. On pourrait lire en manchette « Il la viola », si l'on peut dire cela dans les journaux, à la radio, à la télévision. Certainement, cet humble prédicateur peut en faire autant. Nous devons appeler le péché par son nom. Il y a un temps où l'en était ainsi. Mais aujourd'hui, pour être accepté, faire partie du groupe, il faut faire des compromis. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Le péché n'est pas une mode qui passe. Et nous sommes tous pécheurs, sans exception. Revenons au texte de la Bible, Genèse 34, et cette fois les versets 3 et 4. Nous lisons, son cœur, c'est-à-dire le cœur de Sichem, fils de Hamor, s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Le fait que Sichem apparemment aima la fille et qu'il voulut l'épouser est très intéressant. Poursuivons la lecture. Genèse 34, mais cette fois les versets 5 à 7. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Nous pensons aussi que cela n'aurait pas dû se faire aujourd'hui, mais les choses se produisent, et elle s'est produite. Et maintenant le prince désire l'épouser. Lorsque Jacob apprit cela, il attendit le retour de ses fils. Ils tinrent un conseil de guerre. « Je pense que Jacob n'aurait pas dû faire un aussi grand drame. » Lorsqu'Hamor, le père de Sichem, vint le voir, il était évident qu'il désirait obtenir Dina pour son fils. Jacob aurait probablement dû accepter, parce que c'était la meilleure solution dans les circonstances. Cependant, la manière que le problème fut réglé n'était pas du tout la meilleure, et Dieu ne l'a pas approuvé. Genèse 34, versets 8 et 9, et je cite, « Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la-lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous exigerez. Exigez de moi une forte dot. » Ici, chers auditeurs, en passant, une dot, c'est un bien donné dans un contrat de mariage exigé par le père de la future mariée. Revenons au texte biblique. « Je donnerai donc cette forte dot et beaucoup de présents. » Et je donnerai ce que vous me direz. Mais, s'il vous plaît, accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, nous redit le texte biblique, Genèse 34, verset 13. Je pense que Jacob aurait certainement dû faire preuve de plus de leadership avec sa famille. Premièrement, il aurait dû empêcher ses fils de mentir à Sichem et à Hamor. Puisque le texte nous précise, Genèse 34, verset 14, ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. » Ce qui me trouble dans toute cette affaire, c'est que l'on omet de parler du véritable péché, le viol, mais qu'on soulève l'interdiction des mariages mixtes et les incirconcis. Le texte précise, les versets 15 à 17, toujours de Genèse 34, « Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. » Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Les fils de Jacob leur demandent de subir le rituel de la circoncision. Ceci devrait servir d'avertissement à un grand nombre de personnes de nos jours. Je me souviens d'un couple qui est venu me rencontrer pour me demander de célébrer leur mariage. J'ai refusé, parce que le garçon n'était pas chrétien. Et elle affirmait qu'elle ne l'épouserait pas à moins qu'il le devienne. Je lui ai posé quelques questions concernant sa relation avec le Christ, s'il l'avait accepté comme sauveur et seigneur de son existence. Il s'est mis à bafouiller, à tourner autour du pot. Donc, suite à la réaction de ce jeune homme, je me suis tourné vers la jeune fille pour lui dire « Je ne célébrerai pas ce mariage. Je ne pense pas que ce jeune homme soit converti. » Ils ont pensé que j'étais trop dur. Ils ont trouvé un autre pasteur pour faire la cérémonie. Après leur mariage, elle l'a invité à venir à l'église. Bien entendu, parce que j'étais cruel avec lui, il avait une excellente raison de ne pas venir entendre mes prédications. Elle a accepté d'aller à une autre église et ils sont allés deux, trois fois. Finalement, il lui a dit carrément, « En fait, je ne suis pas chrétien. » Devenir membre d'une église et même affirmer que vous avez placé votre foi en Christ ne signifie pas que vous appartenez à Christ. Je remarque que pour beaucoup de gens de nos jours, la foi ne veut pas dire grand-chose. Il ne suffit pas qu'un simple oui. C'est une expérience extraordinaire. Bouleversante, mon ami, que de mettre notre confiance en Christ pour notre salut. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien auquel nous pouvons comparer cette expérience dans ce monde. Lorsque vous acceptez Christ comme sauveur, il vient bouleverser, transformer votre vie entière. Il n'avait rien de changé ni de transformé chez ce garçon. Beaucoup de gens pensent que s'ils joignent une église, s'ils acquiescent à ce qui est enseigné, s'ils emploient un bon langage et citent même des versets de la parole de Dieu, alors ils sont chrétiens. Mon ami, vous n'êtes pas nécessairement chrétien, mais si vous avez mis votre confiance en Christ seul, quelque chose s'est produit et vous êtes une nouvelle personne. Revenons à notre texte de la Genèse, chapitre 34, et cette fois les lectures des versets 18 et suivants. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. » Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. En d'autres mots, au moyen de mariage mixte, ces hommes espéraient acquérir toute la possession de Jacob. Le verset 24 de Genèse 34. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Il n'y a rien de plus bidon que la circoncision de ces incroyants. Cela équivaut à joindre une église alors que nous sommes inconvertis. Voilà le massacre qui arrive, la suite de cette histoire. Siméon et Lévi massacrent les hommes de Hamor. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Genèse 34, verset 25. Ce fut une véritable ruse. Siméon et Lévi étaient les frères de Dina, et ils voulaient se venger. Cependant, ils sont allés trop loin. Ni le viol ou le fait que Hamor désirait mettre la main sur les grandes richesses accumulées à Charan par Jacob et ses fils ne justifiait le geste si brutal de Siméon et de Lévi. Cependant, cela démontre l'impossibilité de côtoyer les habitants de ce pays. Ce qu'ils ont fait est des plus terribles. Revenons à notre texte de la Bible, Genèse 34, et cette fois lisons ensemble les versets 26 à 30. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. » Remarquez ce qui ne va pas chez Jacob. Jacob dispute Siméon et Lévi parce que leur geste lui donne une mauvaise réputation. Mais il ne leur reproche pas le péché qu'ils viennent de commettre. Il arrive que nous soyons aveuglés à l'égard de nos péchés et de nos actions. Nous ne pensons qu'aux conséquences qu'ils auront. Il y a de nombreux hommes et de nombreuses femmes dans nos églises qui ne mettront jamais le pied à terre au sujet de certaines choses inadmissibles. Pourquoi? Ils craignent de ne pas être acceptés dans le petit cercle qu'ils fréquentent. Ils se tiennent avec leur petit groupe, ils n'osent pas s'affirmer sur une question si le groupe ne le fait pas. Et ce n'est jamais une question de bien ou de mal, c'est une question d'être accepté ou non par le groupe. Puisses-tu exercer sa miséricorde envers les chrétiens qui règlent leur vie selon leur entourage et qui considèrent premièrement comment ils seront perçus par les autres. Ils ne se demandent pas si une chose est bien ou mal, ou si elle est conforme à un comportement chrétien, ou si c'est une chose qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est la raison pour laquelle les églises sont remplies de personnes qui font des compromis. Et ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de chrétiens frustrés et malheureux de nos jours. C'est merveilleux de défendre la vérité. Et lorsque vous le faites, vous n'avez pas besoin de faire de compromis. C'est merveilleux lorsque nous agissons ainsi. Jacob grandit spirituellement, mais il lui reste beaucoup de chemin à faire. Et c'est la même chose pour nous. Nous grandissons lentement, mais sûrement, lorsqu'il n'y a aucun compromis dans notre vie face à la parole de Dieu. Revenons à notre texte biblique, Genèse 34, et concluons ensemble avec le verset 31. Nous lisons, ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Voilà une bonne question. Je dirais que s'ils voulaient se faire justice, ils ne pouvaient trouver mieux. Mais vous pouvez comprendre qu'ils ont été motivés par leurs sentiments envers leur sœur et la honte qu'a éprouvée leur famille. Jacob commence à percevoir que maintenant, il allait récolter ce qu'il a semé. Et vous, n'avez pas pensé à faire vengeance vous-même? Dans certaines circonstances, certaines conditions où il y a eu geste d'injustice, à vous faire vengeance par votre propre force. Il y a un texte dans le Nouveau Testament que j'aimerais vous citer, Romains, chapitre 12, versets 19 à 21, qui dit « Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissez plutôt la justice de Dieu s'accomplir. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, chers amis, le principe divin. Mais pour cela, il faut la foi. Il faut avoir confiance que Dieu va faire régner un jour justice. Justice dans ce monde, justice pour lui-même, mais aussi justice à l'égard de chacun d'entre nous. Il y aura justice accomplie pour tout acte ici-bas sur cette terre. Du moment que nous cherchons à nous venger, nous ne marchons plus par la foi. Nous affirmons que Dieu n'est pas digne de confiance pour nous rendre justice. Exhortons-nous, encourageons-nous, ayons confiance que Dieu veut et peut faire justice, et même dans ma propre vie. Confions-nous en lui, en son œuvre, dans ses actes. Entre toi et moi, lorsque nous sommes devant des choix, des décisions importantes à prendre, cherchons dans nos cœurs les véritables motifs qui nous poussent à agir. Est-ce que nous assumons de vivre selon la réalité ou si nous nous traçons un autre chemin dans le but de l'éviter? Alors, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le 35e chapitre de la Genèse.
Merci, Régent. Et surtout, merci, mon Dieu, de nous instruire, de nous faire connaître la vérité. Comme on a pu voir dans cette leçon, ce n'est pas d'aujourd'hui que la polygamie existe. Dieu ne l'approuvait pas dans le temps de Jacob, et puisque Dieu ne change pas, qu'il est parfait de toute éternité, il n'approuve sûrement pas que la polygamie existe aujourd'hui. Il n'approuve pas qu'un homme ait deux femmes ou trois femmes. Puis on a vu aussi que lorsque les parents tolèrent le péché dans leur propre vie, il y a des conséquences dans la vie de leurs enfants. La fille de Jacob et de Léa a été violée. Puis les fils de Jacob l'ont vengé eux-mêmes en commettant un meurtre. Je trouve que ça ressemble drôlement à aujourd'hui. On voit des choses comme ça constamment à la télé, aux nouvelles, dans les films. C'est d'actualité. Et pourtant, Dieu a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». J'aime tellement l'exemple de David, ce grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, tel que ça a été cité dans Samuel. À plusieurs reprises, Saül y a essayé de le tuer. Puis quand David a eu l'opportunité de se venger, il n'a pas osé mettre la main sur lui. Il a dit à Saül, dans 1 Samuel, chapitre 24, au verset 13, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. » Puis on voit plus loin le triste sort de Saül. Dieu voit tout. Dieu est juste. Dieu est bon. Alors s'il y a quelqu'un qui a été victime d'un viol dans ta famille, dans tes proches, Dieu l'a vu et c'est lui qui est au contrôle. Alors je t'encourage à laisser tout ça dans les mains de Dieu, qui tôt ou tard va tirer vengeance de cet acte infâme. Puis la loi aussi est là pour punir les méchants. Alors c'est pas à nous de nous venger. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à pardonner. Il s'est laissé crucifier sur une croix pour nous. Le Créateur s'est laissé mettre à mort par sa propre créature. C'est à lui qu'il faut aller pour le réconfort, pour la consolation et même pour le salut de notre âme. Alors, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, si tu aimerais passer l'éternité dans la présence de Dieu, demande-lui ce cadeau. Il veut te donner la vie éternelle. Repens-toi. Ça veut dire « change de direction, détourne-toi et regrette amèrement tes péchés. » Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. C'est lui qui va devenir ton maître. Tu vas être heureux, tu vas vivre dans sa présence. Il va même te protéger contre tout ce mal qu'il y a sur la terre. Puis un jour, il va t'amener avec lui dans le ciel. Tu vas passer l'éternité avec Dieu, imagine. Il n'y en aura plus de viol dans le ciel. Il n'y aura plus de meurtre. Ça va être la félicité. Ça veut dire ça, une joie extraordinaire, une joie incomparable. Imagine voir la face de Dieu, être éclairé par lui. Tu n'auras plus besoin de lune, de lumière, de soleil. C'est Dieu lui-même qui va t'éclairer. Tu vas être en sa présence. Dieu a promis d'essuyer toutes larmes de tes yeux. Tu vas être dans la joie éternellement.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.